des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Je ne sais plus combien de livres j'ai enregistrés depuis que je suis à Vues et Voix. Et je dois dire que celui de Lise Vadney, qui raconte la fin tragique de sa sœur et son combat pour éliminer la race des pitbulls, est sûrement un des plus douloureux que j'ai lu. Lise Vadney est en studio pour évoquer ces chiens dangereux. Et je profiterai de cette occasion pour évoquer l'intelligence animale, mais pas juste des chiens, l'intelligence aussi d'autres animaux, parce qu'il existe pas mal de livres audio sur ce thème. Là, en seconde partie, Claudia La Rochelle va être des nôtres aujourd'hui pour nous inviter à lire notamment du Caroline Georges. Et puis, j'aurai plusieurs titres à vous recommander de vous mettre entre les oreilles, puisque vous le savez, cette émission, animée et réalisée pour vous par Clotilde Sey, ne se consacre qu'à la littérature qu'on écoute. Alors, ceci étant dit, bienvenue à tous ceux qui pensent que les médias ne font pas assez la part belle aux auteurs et à leurs livres, quels qu'ils soient. Et on va évoquer avec Renaud des chiens, mais des bons.
Ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé, peur que je ne lève la patte quelque part dans les allées. Où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité? Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique que celui d'un chien pour son maître. Alors ils m'ont privé de cantique. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Devant la chapelle, sous cette pluie qui m'indiffère, tenue en laisse par un fidèle, allergique au lieu de prière. Les gens parlent à côté de moi, tu as de la chance toi au moins. La souffrance ne t'atteint pas, l'émotion c'est pour les humains. Et dire que ça se veut chrétien, ça ne comprend même pas que l'amour dans le cœur d'un chien, c'est le plus grand amour qui soit. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Je pourrais vivre dans la rue, être bourré de coups de pied, manger beaucoup moins que mon dû, dormir sur le pavé mouillé. En échange d'une caresse, de temps en temps d'un bout de pain, je donne toute ma tendresse pour l'éternité ou plus loin. Prévenez-moi lorsque quelqu'un aimera un homme comme moi, comme j'ai aimé cet humain, que je pleure tout autant que toi. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens.
Bonjour Lise Vadney, ça vous touche cette chanson? Oh,
terriblement, c'est tellement beau.
C'est beau.
Et c'est très très touchant.
Et c'est très touchant, ouais, et ouais, c'est vrai qu'il y a des très bons chiens comme cela, comme celui-ci. Vous savez que ce chien-là dont Renaud parlait, c'était le chien de Monsieur Mitterrand, François Mitterrand. Et lorsque le président de la République française est mort, la famille, les amis ont amené le chien parce qu'il avait toujours son chien avec lui. Et le curé a refusé que le chien entre dans l'église. Et c'est pour ça qu'il avait écrit cette chanson-là. Lise Vadney. Pour vous, malheureusement, le mot chien évoque, oui, le compagnon, le bon compagnon. Mais lorsqu'on vous dit chien, ça évoque forcément le drame qu'a vécu votre sœur, Christiane Vadney, attaquée à mort dans son jardin, dans l'est de la ville, par un pitbull enragé. Quoique, dans le cas des pitbulls, je me demande si pitbull enragé, c'est pas un pléonasme, finalement.
Parce que,
et Et bon, vous, c'est un pitbull. On va y aller dans l'ordre. D'abord, bonjour à vous deux et bonjour à Gilles, qui est votre compagnon, qui fait partie de ce combat dont on va parler maintenant. Ma première question, c'est pourquoi le titre « Attention, chien dangereux » de ce livre et pourquoi pas « Attention, pitbull dangereux » ?
En fait, ce n'est pas vraiment moi qui ai choisi le titre. On me l'a suggéré et je me suis dit, ben pourquoi pas? Parce que dans le fond, ça, c'est comme la photo, c'est comme une affiche hein, qu'on voit sur les clôtures. Oui. Attention, chien dangereux. Et je trouvais que ça ciblait pas nécessairement le pitbull. Et je voulais qu'on parle d'un chien dangereux. C'est sûr que je voulais qu'on parle du pitbull, mais je voulais que les gens ne soient pas comme... bloqué de lire mon livre en voyant Pitbull, je lis pas ça. Fait que c'était comme une ouverture à aller chercher de l'information sur l'histoire de ma soeur, mais sur toute la recherche que j'ai faite par rapport au Pitbull.
Et c'est pas une mauvaise idée, je pense, ouais. Effectivement. Alors, la première aussi question que je voulais vous demander plutôt, d'ailleurs c'est la deuxième, cette image que vous devez avoir, parce que nous qui ne faisons pas partie de la famille Vadnais, moi qui ai lu ce livre, et je pense à tous ceux qui vont le lire avec les yeux ou avec les oreilles, l'image de votre sœur dans son jardin, dans sa cour, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils sont évoqués dans le livre, je ne le ferai pas à cette émission-là. Je comprends qu'elle doit vous hanter.
Oui.
Alors je me dis, Lise Vadnais, est-ce que c'est cette image-là qui vous pousse à continuer malgré tout ce combat, parce qu'il existe depuis maintenant 2 ans, hein, et ou est-ce que c'est l'espèce de, je sais pas, de folie des hommes qui fait qu'on a l'impression qu'ils protègent plus les chiens que les êtres humains?
Mais en
qu'est-ce
fait,
qui fait que votre combat...
Ouais, en fait, c'est oui, cette image-là, mais absolument pas juste cette image-là.
Non.
Ce qui m'amène à aller aussi loin, mais je ne l'avais pas prévu à la base, on s'entend, c'est par rapport à toutes les autres images qui m'habitent aussi. Mais je ne vous cacherai pas que l'image de ma sœur m'habite particulièrement. Je me réveille au milieu de la nuit, je la vois encore. Le soir, des fois, j'ai de la misère à m'endormir parce que...
Vous l'avez vue?
Je ne l'ai pas vue.
OK.
Mais c'est plus fort que
bien
moi
sûr.
Que d'imaginer le
bien
scénario,
sûr.
Qu'elle revient chez elle et tout ça. C'est plus fort que moi. Puis je pense pas être la seule dans la famille qui vit ça. Mais j'ai vu et entendu tellement d'autres histoires d'horreur. Mm. Et que les gens vivent avec les séquelles encore aujourd'hui, que c'est ça qui me pousse à continuer parce que je veux que les gens sachent jusqu'à quel point ça peut être horrible une attaque de pitbull. Puis je veux que les gens sachent aussi que c'est pas normal qu'un chien... Parce qu'un chien, là, moi j'en ai un, je connais plusieurs personnes qui en ont. La fille de Christiane a un chien. Ce sont des chiens domestiques de compagnie avec lesquels on a du plaisir et qui ne... Peut-être qu'ils vont mordre un chien, ça mord. On ne peut pas être à l'abri de ça, c'est clair, là.
Ouais.
Mais en aucun temps, je peux imaginer qu'un chien mange un autre être humain. Ça, là, ça ne fait pas partie, pour moi, de la catégorie des chiens. Et c'est ça que je veux dénoncer, parce que le pitbull fait partie de ça. Je ne dis pas que tous les pitbulls font ça, mais le pourcentage de pitbulls qui attaquent par rapport aux autres chiens est tellement énorme, et les autres chiens qui attaquent n'attaquent pas comme le pitbull. Le
non,
pitbull.
Ils vont lâcher, ils vont mordre, et puis à un moment, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ils vont mordre, puis souvent pour des raisons particulières. On est capable de très bien comprendre pourquoi le chien a mordu, parce qu'il s'est senti, il a eu peur, parce qu'on est entré dans son espace. Peu importe, on est capable de l'expliquer. Le pitbull, souvent, on est incapable de l'expliquer. Le cas de ma sœur, le cas du monsieur qui se promène dans la rue, qui fait son jogging, le cas de la dame qui promène son bébé.
Son enfant.
Son enfant.
On ne peut pas dire que l'enfant a fait
voilà,
quoi que ce soit.
Voilà, la gardienne qui a le bébé dans les bras, puis que le pitbull vient lui chercher dans les bras. Il y a plein d'exemples comme ça que je donne dans mon livre et que je vois à tous les jours qui arrivent aux États-Unis. Alors, je me dis, ça, il faut que les gens le sachent. On va arrêter de se mettre la tête dans le sable et de dire que c'est une malchance, c'est un chien, qu'il a vécu quelque chose. Non, non, non. C'est trop fréquent pour qu'on fasse semblant que c'est banal.
Mmh. Et même si c'est le cas, il faut faire quelque chose.
Il faut faire quelque chose.
De toute façon. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes fin mars. Ce matin, je lisais dans la presse plus, Et là, je vais la citer, Madame Goldwater, qui dit « Il est presque inévitable que je porte en appel la cause que je plaide pour sauver le molosse. » Elle parle là d'un molosse qui a mordu 6 personnes différentes. On parle d'une autre cause que celle de votre sœur Christiane. Madame Goldwater, Maître Goldwater, qui dit aussi « Je sais que bien des gens aiment les théories du complot, mais il n'y a pas de lobby pro-pitbull et personne ne finance cette démarche. » Ça fait sourire votre conjoint Gilles qui est là. Si elle était là dans le studio, Lise Vadnais, qu'est-ce que vous diriez en ce moment à Maître Goldwater?
Je dirais, Maître Goldwater, si vous aimez vraiment les chiens, si vous aimez vraiment les pitbulls, ayez pitié de lui. Il va pas bien. Il ne va pas bien, ce pitou-là, là. Ce chien-là. La personne de la SPCA l'a clairement dit. Il est en piteux état, dans un état pitoyable. On craint pour la sécurité de nos employés. Il faut faire quelque chose. Elle a suggéré de l'envoyer dans le refuge aux États-Unis au plus vite, ce que je n'approuve pas du tout, parce que même dans le refuge là-bas, il va être aussi dans le même état, aussi dangereux, quant à moi. Et aussi, ce chien-là avait aussi attaqué d'autres chiens. Alors, même si on le met avec d'autres chiens, c'est les autres chiens qui vont être dangereux. Ce n'est pas une bonne idée.
Et vous parliez de se mettre la tête dans le sable. Même dans ce refuge-là, je lisais dans le même papier, ils assurent qu'ils peuvent donner à ce chien, donc à ce pitbull, une vie normale malgré son passé violent.
Impossible.
Alors, là, l'autre question, avez-vous l'impression que le passé du chien est finalement beaucoup plus respecté que le vôtre, que le passé des êtres humains qui se font mordre ou qui se font tuer comme votre sœur Christiane? C'est incroyable.
Ce n'est pas de respecter le passé du chien, c'est de nier le passé du chien. Parce que c'est pas vrai que ce chien-là peut avoir une vie normale. Il a démontré clairement qu'il était capable du pire, autant par rapport aux autres chiens autour de lui que par rapport aux êtres humains. En quoi est-ce qu'on peut se permettre de prendre un tel risque, autant par rapport à ceux qui vont travailler auprès de lui que les autres chiens? Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on a tellement à dire par rapport aux êtres humains qui sont attaqués qu'on oublie de dire jusqu'à quel point d'autres petits chiens et même des moyens et assez gros chiens sont attaqués par le pitbull.
Absolument.
Moi, je comprends pas que le pitbull soit plus important que l'autre chien de Madame Untel ou Monsieur Untel. J'accepte pas ça.
Alors, Madame Vadnais, Lise, dans votre livre, ce qui est, j'allais dire, le plus terrible, je ne sais pas si c'est la bonne expression, c'est que vous incarnez votre sœur, vous l'humanisez, puisque vous nous la présentez dans la famille. Donc, on voit évoluer cette femme. On la voit avec vos parents. D'ailleurs, même vous vous attachez à parler de vos parents. On voit cette communion qu'il y avait entre vous et votre sœur Christiane quand vous étiez petite, parce qu'on peut vraiment parler d'une communion. Alors, ça rend l'accident, je trouve, encore plus dramatique, mais je trouve que vous avez bien fait parce que je trouve que ça authentifie encore plus l'horreur de l'acte. C'est-à-dire, regardez, vous aussi, vous avez tous des parents, vous aussi, vous avez, et vous aussi, un jour, vous pouvez croiser un molossoïde comme celui-ci qui va non seulement vous mordre, mais peut-être vous tuer.
Exactement.
Donc, c'est un choix volontaire de votre part.
C'était ça. C'était tout à fait un choix volontaire. Puis c'est pour ça aussi que je n'embellis pas ma famille. Elle est suffisamment belle. Je n'ai pas besoin de l'embellir. J'ai une très belle famille. Malgré les drames qui sont arrivés, on en a eu, toutes les familles en ont. C'était aussi ça l'idée de la rendre authentique et de la rendre que tout le monde puisse s'identifier à cette famille-là et se dire, mon Dieu, mais c'est une famille ordinaire et ça pourrait m'arriver à moi, à ma fille, à ma mère. C'était le...
Et vous citez d'autres accidents. Par exemple, celui-ci, le 27 juin 2016 en Californie. Une jeune maman laisse son nouveau-né, un poupon d'à peine 3 jours sur le canapé. 3 jours. Vous imaginez, et vous imaginez Pitbull à côté. Le temps d'aller à la salle de bain. Et toute seule, elle va à la salle de bain. Juste avant, elle ouvre la porte afin de laisser entrer de l'air frais dans la maison, croyant alors que ces deux chiens de type Pitbull sont bien attachés à l'extérieur. Mais à peine entrée dans la salle de bain, elle entend les pleurs de son bébé et les cris de son frère qui vient de rentrer du travail. La jeune femme se rue à l'extérieur pour y découvrir le corps, inanimé et ensanglanté de son nouveau-né, que les chiens ont d'abord emmené à l'extérieur pour ensuite l'attaquer. Autrement dit, ils sont vraiment allés le chercher, ils l'ont amené comme une proie.
C'est horrible.
Qu'on ne me dise pas que ça ne peut pas arriver. Enfin, c'est... Qu'un golden mord d'un bébé, ça arrive, et je peux vous dire que ça arrive à tous les jours, ça arrive même fréquemment, parce que les golden sont les chiens les plus élevés au monde, mais à ce point-là. Je veux dire, c'est quand... Et le pire, c'est que souvent, dans ces cas-là, le chien pitbull, après, lui, ça fait partie vraiment de ses... De son sang, de oui. son...
C'est comme si c'était son rôle dans la vie au pitbull, dans sa vie à lui. Parce que moi, je, pas le chien que j'ai actuel, il y a juste 2 ans, mais mon autre chien que j'ai eu avant, pendant 16 ans, si j'arrivais à la maison puis qu'il avait vidé la poubelle avec des Kleenex, là, il avait l'air piteux. Et le pitbull va aller manger le bébé ou il va faire... Et il revient la queue branlante, tout content. Mm. Il n'a pas conscience du drame,
pas du
comme
tout.
Si, même si c'est quelqu'un, puis des, là, on dit un bébé, mais ça pourrait même être quelqu'un de qui se fait longtemps, le maître. Ou, et il ne voit pas la différence entre l'humain et le chien, et le faire du mal, il n'a pas ça.
Lise Vadnais, on fait quoi? Parce que, bon, vous menez ce combat. Malheureusement, vous heurtez alors, à l'incompréhension des administrations. Vous luttez contre la SPCA. Vous avez l'Ordre des vétérinaires contre vous. Vous avez tout ce monde-là contre vous. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais si... Parce que là, j'ai vu là, celui qui a assassiné votre... Enfin, je vais dire le propriétaire du chien qui a tué votre sœur, Christiane... Il va faire quoi? De travaux communautaires?
Oui, mais pas par rapport à l'histoire de ma sœur, on s'entend. C'est parce qu'il y avait eu la rage au volant, puis on a trouvé qu'il y avait des ports d'armes illégales
donc,
chez lui.
Imaginez.
Tout ça, ça n'a rien à voir avec... Par rapport à l'histoire de ma sœur, il n'y a même pas eu une tape sur les doigts.
Imaginons 2 secondes, là, je vais me faire haïr, je vous le dis, non pas par vous, mais par beaucoup de monde. Qu'on punisse les maîtres? Vous savez, ceux qui disent, mais moi j'en ai un pitbull, puis je dors avec, puis mes enfants dorment sur lui ou sur elle, puis un jour il arrive un accident.
Oui.
Imaginez qu'on peut, à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait une prise de conscience. Parce que finalement, on punit toujours le chien, mais le maître.
Absolument.
Êtes-vous d'accord avec ça?
Je suis tout à fait d'accord de responsabiliser les maîtres, que les maîtres, que si ça arrive, qu'on s'adresse aux maîtres, qu'est-ce qui s'est passé,
parce que... On tue quelqu'un en voiture, il y a homicide involontaire.
Voilà.
Ah, et je me dis...
C'est clair. Parce que, quand tu adoptes un pitbull, ben j'espère qu'un jour, on n'en adoptera plus parce qu'on ne pourra plus en adopter. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas faire semblant, si tu as un pitbull, que tu es à l'abri de ça. C'est impossible parce qu'on entend trop souvent un pitbull qui est attaqué et le maître qui va dire... Mais jamais il a été agressif, mon petit chien.
Alors que c'est ce qui arrive tout le temps.
Voilà.
La plupart du temps, ils se font mordre, ce sont les propriétaires qui se font mordre par leur chien.
Mais oui, 13...
Qui tout d'un coup se retournent vers eux, puis c'est
13% des attaques de pitbull sont dirigées vers le maître.
Ouais.
Et 60-65% des fois, c'est par rapport à quelqu'un qui connaît. Le chien connaît, le chien connaît la personne qui va attaquer. C'est terrible.
Lise Vadnais, lorsqu'on vous dit que ce sont des chiens qui sont dangereux et pas des races, avez-vous envisagé à un moment donné ou à un autre qu'ils aient raison? Vous comprenez ce que je veux dire?
Parce que,
après tout, est-ce que n'importe quel chien ne peut-il pas devenir imprévisible comme un pitbull? Est-ce que parfois ça vous a effleuré l'esprit? Est-ce que parfois vous êtes dit, oh, ils ont... Je sais pas. Gilles aussi, je pourrais peut-être aussi vous poser la question, parce que vous êtes du combat avec votre épouse, avec Lise Vadnais, depuis le tout début, depuis le décès de Christiane. Est-ce que parfois vous ne vous êtes pas dit, ah, mais après tout, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas juste le pitbull? Avez-vous eu des doutes parfois?
On s'est posé la question, lorsqu'on connaît la génétique du pitbull.
Avancez-vous un tout petit peu, Gilles, qu'on vous entende bien.
Ça
merci.
Fait quoi, 2 siècles à peu près là, qu'on a commencé à croiser 2 chiens pour en former un autre, un chien qui va être agressif, qui va être un chien de combat. À l'origine, le pitbull, c'était pour amuser la galerie. On le mettait dans un enclos avec 2 ou 3 pitbulls avec un taureau. Ensuite, on a fait des combats de chiens entre pitbulls. Et on a continué comme ça, comme dit souvent Lise. Alors, il y a des éleveurs qui sont responsables et qui tentent de faire en sorte que ce type de caractère négatif disparaisse. Mais il y en a d'autres qui l'encouragent.
Autrement dit, c'est toujours la main de l'homme quand même. Vous avez remarqué, c'est toujours la main de l'homme. Parce qu'au départ, c'est la main de l'homme. Moi, je pense que les boules terriers, au départ, ils sont comme tous les chiens de la terre. C'est l'homme qui l'a domestiqué. Ouais. C'est l'homme qui les a rendus plus gros. C'est l'homme qui les a rendus plus violents. Et pourtant, aujourd'hui, on a le résultat qu'on a avec des chiens malades, avec des chiens agressifs.
Oui.
Et on continue de les protéger et pas les humains qui sont attaqués.
Puis c'est certain qu'en lisant, en faisant toutes nos recherches, on a vu qu'il y en avait d'autres chiens qui pouvaient être, qui pouvaient être dangereux.
Oui.
Mais l'écart est tellement grand entre le pitbull et le chien qui le suit comme dans sa dangerosité. C'est, l'écart est tellement grand qu'on ne peut pas faire semblant qu'il faut commencer à quelque part. Et je pense que si on fait un ménage avec le pitbull, les autres chiens viendront peut-être éventuellement. Mais avant que le prochain chien atteigne la dangerosité du pitbull, ça va prendre énormément de temps. Puis je pense qu'une fois qu'on va avoir fait du ménage avec le pitbull, les gens vont peut-être avoir une mentalité différente et on va tranquillement agir différemment, un peu comme on a fait pour l'alcool au volant. Au début, on disait, ben voyons, ça ne servira à rien, ça ne servira à rien. Mais là, maintenant, il y a toute une conscience sociale autour de ça et on continue de travailler dans ce sens-là. Mais pour les chiens, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il faut commencer à quelque part. Et le pitbull, c'est lui qui est le plus gros problème actuellement. Mmh.
Et vous faites partie de la chaîne nécessaire. Vous êtes un maillon de la chaîne très important. Ne lâchez jamais. Soyez un pitbull, Lise Vadnais. Ne lâchez jamais le morceau parce que ce serait vraiment dommage. Merci à vous deux d'être venus. Je rappelle le titre de votre livre, Attention, chien dangereux, qui existe sur papier, qui existe aussi en audio, enregistré par Vues et Voix. Donc, vous pouvez retrouver ça sur livreaudio.vuesetvoix.com. Merci encore à vous deux.
Merci
et lâchez pas.
Merci à vous. Beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et je me suis dit, quitte à avoir reçu Lise Vadnais, auteure de ce livre « Attention, chien dangereux », qu'elle aurait préféré sûrement ne jamais avoir à écrire, on s'en doute bien. Je me suis dit, pourquoi ne pas en parler des chiens? Il est question notamment, à un moment donné, du docteur Joël de Haas. Joël de Haas, que j'ai bien connu, moi, dans une autre vie, qui est vraiment un type, il est le grand spécialiste, dit-on, il est belge. Il y a un livre qui existe en audio, et on le retrouve gratuitement. C'est un livre accessible via le SQLA qui s'appelle « L'éducation du chien de 0 à 6 mois ». Et il n'est pas que assis, debout, couché, tout ça. Il est intéressant et notamment, je voudrais vous lire quelque chose ici. C'est un chapitre qui s'appelle « In utero ». L'état émotif de la mère retentit sur la personnalité des enfants qu'elle porte. On parle toujours des chiens. Si les mères malheureuses, déprimées et ambivalentes mettent au monde des enfants présentant un taux plus élevé de névrose, c'est parce que leur personnalité s'est structurée dans un climat de peur et d'angoisse. Une chienne anxieuse met au monde plus de chiots anxieux qu'une chienne équilibrée. Il s'agit d'un phénomène héréditaire, mais est-il lié au chromosome ou à l'afflux hormonal inondant les fœtus pendant la gestation et déréglant leur hémotostat, donc thermostat émotionnel. Ça, c'est la question qu'ils se posent. Et après, on est page 38, écoutez bien ça. Un mot encore sur ce sujet. Un boxeur de 9 semaines, mis en présence pour la première fois de sa vie avec un homme d'attaque. Donc, un boxeur, il a 9 semaines. Pour la première fois, il est mis en présence avec un homme d'attaque. Ça veut dire, vous savez, ces hommes qui sont comme padés. Bon. Donc, il est habillé de protection spéciale pour supporter les assauts. Eh bien, le chiot de 9 semaines l'attaque furieusement et se pend à ses jambes. Son père n'avait pas subi ce genre de dressage. Le papa chien, hein. La maman non plus. La maman avait subi. Elle avait vécu ce type d'éducation et ce type de dressage. Et comme par hasard, le chiot de 9 semaines a attaqué. C'est quand même incroyable. Le problème ne se pose guère pour le chien dressé, maintenu sous contrôle, mais bien pour sa descendance. Alors, ce qui peut expliquer, j'ai encore avec moi Lise Vatney et son compagnon Gilles, vous rendez-vous compte jusqu'où on peut aller pour peut-être expliquer ces gestes terribles? Alors, l'éducation du chien de 0 à 6 mois, c'est écrit par Joël De Haas. J'ai peut-être encore une minute pour vous parler d'un livre fantastique qui s'appelle « 2 minutes, c'est parfait ». Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? Ah, c'est un livre très complexe, je vous garantis que sur le plan scientifique, il a été écrit par France Deval. D'abord, je vous parle de France Deval, c'est un primatologue reconnu, c'est une sommité dans son domaine. Il est notamment spécialiste du singe qu'on appelle le bonobo. Lui ne s'est pas intéressé qu'aux chiens, il s'est intéressé aux perroquets, aux chauves-souris, aux baleines et même aux guêpes, imaginez-vous. Et c'est une brique de 350 pages qu'il nous propose. Et je voudrais vous citer d'abord, en page 9, la définition de Darwin, que j'aime beaucoup. Charles Darwin, qui a écrit « Si considérable qu'elle soit, la différence entre l'esprit de l'homme et celui des animaux les plus élevés n'est certainement qu'une différence de degré et non d'espèce. » Je trouve ça franchement intéressant. Et dans la petite minute qui me reste, je m'en vais en page 347, où il est question... En fait, ce sont les derniers mots de M. Deval dans ce livre-là qui dit « Cessons de faire de l'homme la mesure de toutes choses. Évaluons les autres espèces par ce qu'elles sont, elles. Je suis sûre que nous découvrirons ainsi de nombreux puits sans fond dont certains sont encore inimaginables pour nous. » Autrement dit, c'est toujours ce que je dis, on n'a rien compris à la race animale, ni au pitbull, ni au chien, ni encore moins à la race humaine. Merci beaucoup encore à vous deux, Lise Vatney et merci. Gilles.
Merci.
Et
merci
puis, ne manquez pas la deuxième partie de l'émission, c'est dans quelques minutes. C'est Clotilde Seil qui vous parle et qui vous présente des livres plein les oreilles. Merci. Des livres plein les oreilles, la suite. Alors vous écoutez cette émission des livres plein les oreilles, réalisée, animée pour vous par Clotilde Seil sur les ondes de Canal M. Claudia La Rochelle est comme un grand livre ouvert. Elle est toujours prête à nous partager sa passion pour les bouquins en tout genre. On va la retrouver dans quelques secondes, juste après cette chanson.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe, je sais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui nous fait comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnotte était aussi produite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les enfermit en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Tonton devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme est consciente. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Et Vian dans les dents, la Java des bombes atomiques, interprétée là par Serge Reggiani. Bonjour Claudia.
Ouais, bonjour Clotilde.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Alors, notre grand livre ouvert, comme je vous appelle maintenant, Claudia, comme je t'appelle maintenant, c'est vrai qu'on a décidé qu'on se tutoyait. Mon Dieu, les vieilles habitudes radio-canadiennes, hein, c'est terrible comment... Oh, je me donne des... Alors, Claudia, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un livre de Caroline Georges, enregistré par Radio-Canada, donc ça se retrouve dans leur série de livres audio de synthèse.
Oui, de synthèse, tellement ancrée dans le réel, dans la société actuelle, qui a remporté plusieurs honneurs, dont le prix littéraire du gouverneur général en 2018, Caroline Georges, donc une écrivaine québécoise de grand talent. De synthèse, ben, c'est l'histoire de... C'est une relation filiale, beaucoup, une histoire mère-fille. Bon, il y a une femme qui passe sa vie devant les fenêtres de sa maison en banlieue. Et puis il y en a une autre, donc sa fille, qui cherche toujours à traverser l'écran pour se transformer. Elle vit à travers des personnages de fiction, à travers des personnages qui vivent dans la télévision, en quelque sorte. C'est comme ça qu'elle se sent vivre. C'est la réalité virtuelle qui la stimule au plus haut point. Et un jour, elle est omnibulée donc par l'image qui permet d'exister sans risque, parce que quand on vit une image, on n'a pas de risque. Obsédée par cette image-là, ben, elle va se présenter à un concours de beauté qu'elle va remporter à 14 ans. Elle va faire la grosse vie et va habiter une dizaine d'années là-bas à Paris. Et au retour, lorsqu'elle revient ici, au Québec, financièrement, ça va très bien et elle va se mettre justement à devenir carrément un avatar, à vivre de ça vraiment dans la réalité virtuelle. Alors, c'est vraiment un roman avec une histoire qui nous ramène à tout ce questionnement sur le réel, la fiction, la réalité, la vie à travers les divertissements, les risques qu'on n'ose pas prendre, la sécurité aussi qu'il y a dans le fait de vivre dans la fiction. Donc elle va devenir comme une espèce de personne, une personne de synthèse, et son avatar va s'appeler Anouk, dont le nom signifie la grâce, qui lui renvoie toujours l'image parfaite, parfois trop ressemblante d'elle-même. Alors, mais il y a toujours la maladie de sa mère, parce que la mère, elle est malade, donc ça va toujours la ramener un peu à la réalité, au réel. La maladie, c'est dans la vie que ça se passe, et non pas dans ce qui est virtuel. Alors, voyez un peu, il y a tout ce questionnement-là qui va se passer dans la vie de ce personnage.
Claudia, ôte-moi d'un doute, c'est pas la première fois que Caroline Georges utilise ce thème-là de la beauté, de la famille, de tout ça, hein?
ça continue d'être toujours, c'est son champ d'investigation. On dit souvent qu'on réécrit toujours le même roman. On essaie de comprendre. C'est les questions qu'elle se pose toujours à travers ses romans, notamment, elle est l'auteur de 7 livres, hein, notamment oui. Sous béton. Donc, c'est sûr, c'est des questions qui la fascinent, comme tout ce qui est la vidéo, la radio, la photographie, la modélisation 3D. Donc, elle a vraiment ce penchant-là. Et ça ressort beaucoup dans ses livres, ouais, dans ses histoires.
Alors, Claudia, je te propose et je nous propose à tout le monde un extrait de Deux synthèses de Caroline Georges.
Oui.
Dans l'image de la plus grande détonation de l'histoire du nucléaire, il y a tout le XXe siècle qui s'élève jusqu'à la Lune, puis qui dérape par-delà la Voie lactée, son œil ouvert sur l'origine de l'univers. L'époque qui m'a vu naître ressemble à un œil champignon qui tente de dilater le champ de sa perception pour embrasser à la fois le macrocosme et le microcosme, et pour ensuite tout régurgiter par la bouche des médias devant laquelle j'ai été statufié une bonne partie de mon existence, installé en tailleur, dans la même position depuis l'enfance, à taper des mains devant les dessins animés ou à les joindre contre ma bouche ouverte sur un grand silence pendant l'effondrement du World Trade Center. Or, parmi les découvertes, technologies électroniques et autres miracles scientifiques à tout bouleverser depuis 2 siècles, c'est avec un masque et une paire de gants que je détermine maintenant l'horizon de mon évolution. Depuis près d'une décennie, je me retrouve chaque jour en réalité virtuelle, face à face avec mon double de pixels, à tenter de prendre corps à travers elle. J'y étais presque. Et puis ma mère a commencé à se décomposer.
Et moi, pendant ce temps-là, je suis en train... j'ai trouvé 2 synthèses parce que j'ai oublié de noter. C'est lu par Magali Lépine-Blondeau, dont je pensais bien avoir reconnu la voix, mais je n'étais pas sûre. Claudia... Un livre, quel thème que le thème de Le courage qu'il faut aux rivières d'Emmanuel Favier?
Ah oui, c'est fascinant ce roman-là. C'est un premier roman pour cette Française de 39 ans qui avait surtout fait paraître des nouvelles et de la poésie. Alors, il est question de vierge sous serment ou vierge jurée. J'ignorais l'existence de ces femmes-là. Brièvement, c'est que pour ne pas vivre sous tutelle masculine dans des sociétés patriarcales où elles n'ont pas, où elles n'ont pas de pouvoir, elles choisissent de se plier donc à une espèce de tradition ancestrale qui fait qu'elles font le serment de rester vierges à jamais, ces femmes-là, et de vivre comme des hommes. Alors, on a vu ça beaucoup en Albanie, on a vu ça dans des pays des Balkans occidentaux, Kosovo, Macédoine, Serbie, Monténégro, tout ça. Juste en 2008, en Albanie, il y en avait encore quelques centaines en 2008. Donc, c'est rare, mais il doit en rester encore quelques-unes. Alors, ce phénomène-là, les vierges jurées, ça a inspiré Emmanuel Favier pour ce premier roman, Le courage qu'il faut aux rivières. C'est très, très intéressant parce qu'elle nous plonge dans l'univers de Manouche, qui est donc justement une de ses vierges jurées. Elle est vue comme un homme, elle est traitée, considérée comme un homme. Et elle est dans un village des Balkans, respectée par toute la communauté. On ne sait pas trop en quelle année, on ne sait pas trop où finalement exactement. Et l'arrivée d'Adriane, qui est un être au passé énigmatique, un être avec un regard fascinant, va brutalement la rappeler à sa féminité, à ce qu'elle a refoulé, au désir aussi, parce que ce personnage-là a refoulé ses pulsions et son désir toujours pour vivre en vierge et comme un homme. Alors, il va y avoir évidemment, on devine, une espèce d'intimité qui va se créer entre ces deux personnages-là. On va apprendre à découvrir qui est réellement Adriane, son passé, sa vie. Ah, il y a une force poétique là-dedans, Clotilde, c'est super.
Ah oui, hein?
on est dans la fiction, mais on sait que c'est près d'une certaine réalité qui est éloignée pour nous, mais quand même bien présente dans l'histoire et peut-être même actuellement.
D'ailleurs, oui. Claudia, si tu me le permets, pardon de t'interrompre, tu pourras revenir là-dessus, mais je voudrais qu'on écoute l'auteur parce que j'ai un petit extrait de ce que dit l'auteur Emmanuel Favier à propos de son livre, à propos de ces femmes, de ces vierges jurées. On écoute Emmanuel Favier.
Il se trouve que c'est vraiment la tradition qui m'a interpellée, que j'ai découverte dans une exposition sur le genre. J'ai vu quelque chose dans le regard de ces femmes considérées comme des hommes, dans ce choix qu'elles font. Alors parfois c'est un choix qui est forcé puisqu'on leur impose de devenir des hommes par manque d'héritiers mâles par exemple. Mais il y a quand même une dimension d'émancipation là-dedans qui est très étonnante. Et pour moi, faire un détour par cette culture qui est finalement pas si lointaine, l'Albanie, c'est pas... voilà. Mais ça me permettait de poser les questions de la domination masculine, des rapports hommes-femmes, de manière très différente de la façon dont on se les pose ici. Et donc c'était un détour anthropologique par une autre culture pour mieux comprendre finalement comment nous on se situe par rapport à ça.
C'est fou. Ouais. Renoncer à la féminité, ouais. C'est chargé de sens. Moi, surtout à notre époque, je veux dire, j'ai jamais rien lu de tel. Ça m'a fascinée. Je repense à cette histoire-là. J'aimerais en savoir plus d'ailleurs. Ça donne envie de faire des reportages.
Absolument, c'est vrai. Hein. Il y a dans ce livre, à un moment donné, une citation et je n'ai pas trouvé de qui elle est. Peut-être que tu la connais. Être femme est une infirmité naturelle dont tout le monde s'accommode. Rien que ça. Être homme est une illusion et une violence que tout justifie et privilégie. Être est tout simplement un défi.
Être, donc sans genre, c'est oui, effectivement, juste être.
Exactement. Mais écoute, être femme est une infirmité naturelle dont tout le monde s'accommode.
Aïe,
exactement. Alors le courage, oui, c'est fort, hein, très fort. Le courage qu'il faut aux rivières d'Emmanuel Favier, présenté pour nous à l'émission des livres pleins les oreilles aujourd'hui par Claudia La Rochelle. Claudia, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain.
Oui, absolument. C'est un plaisir. Bonne journée.
Pour moi, pareil. Pour nous, pareil. Salut, oui. Claudia.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
J'ai touché le fond de la piscine dans le petit pull marine, tout déchiré au coude que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y a pas qu'au fond de la piscine que mes yeux sont bleu marine. Tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard et t'avais appliqué. Maintenant je paie. Toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin-chin, comme c'est pour toi je m'en fous, je suis vraiment prête à tout avaler, que m'importe si l'on me trouve à moitié morte. Deux sont au fond dans la piscine, la deux des magazines se charge. cheveux cachés.
Et là, vous vous dites, mais comment ça se fait qu'elle nous balance du Isabelle Adjani ? D'ailleurs, chanson écrite, hein, co-écrite avec Serge Gainsbourg, Gainsbourg pour la musique et Adjani pour le texte. Moi, je pensais que c'était Gainsbourg qui avait fait parole à musique. Eh bien non. Alors, pourquoi Adjani ? Eh bien, parce que Isabelle Adjani a enregistré, et vous retrouvez ça sur les plateformes commerciales, un journal, le journal d'Alice James, lu par cette grande actrice que l'on connaît. Alice James, qui était-elle ? Elle était la sœur de Henry James, qui a commencé son journal dans les années 1890, un petit peu plus avant. Elle avait 40 ans. Elle l'a tenu régulièrement pendant 3 ans, jusqu'à sa mort en 1982. Pendant les derniers mois de sa longue maladie, elle a dicté à Catherine P. Loring, sa compagne, son amie fidèle, à qui l'on doit aujourd'hui la sauvegarde de ce texte. Elle a donc dicté tous ces mots qui sont lus par Isabelle Adjani. Il a fallu attendre 1934 pour que ce journal d'Alice James soit enfin édité aux États-Unis. C'est un document absolument bouleversant, nous dit-on, qui témoigne de la force de vie et d'intelligence d'une femme condamnée, parce que femme, à ne pouvoir l'exprimer librement. Voici un extrait du journal d'Alice James tel que lu par Isabelle Adjani.
La pauvreté et la stagnation de ce destin offraient un tel contraste avec la vague de pensées qui submergeait mon esprit que je m'écriais « Oh, nurse, ne voudriez-vous pas être moi ?» Son air de consternation et de dénégation véhément donna un coup plus rude à ma vanité que celle-ci, très maltraitée pourtant et jamais reçue. « Vous, miss, qui venez d'avoir la migraine pendant 5 jours ?» Ce mal de tête avait disparu pendant la nuit et je l'avais totalement oublié quand cette misérable me le rappela. À l'instant sublime où je sentais en moi la puissance d'un Bismarck. Je restais sans force devant la loi immuable que pour grand que nous ayons l'impression d'être, pas un être humain n'accepterait de changer son esprit contre le nôtre. Mon rôle glorieux ne signifiait rien d'autre qu'un mal à la tête pour l'humanité. Comme je suis ridicule en vérité. Étendue dans cette chambre, aussi peu résistante qu'un duvet de chardon, avec des instants illusoires, où je crois palpiter à l'unisson avec le pouls de la race humaine, sentant le mystère prêt à être résolu avec mon prochain souffle et la source de tous les bonheurs en moi, mon sentiment de vitalité en un mot, en rapport seulement avec l'excès de ma faiblesse. Observer ces absurdités est amusant à sa manière et me rappelle la façon dont j'écoutais les propos que je tenais dans le monde quand j'y allais, et comme ils semblaient ridicules. Ah, ces gens étranges qui ont le courage d'être malheureux.
Allez, on s'en va chez Gallimard dans la section Écouter lire avec un livre de Didier Deninx qui s'appelle Cannibal, lu par Gaëlle Camilindi. Cannibal, nous sommes à Paris en 1931, juste avant l'exposition coloniale. Et juste avant, il va y avoir bien sûr inauguration officielle. Alors, on se demande ce qui s'est passé parce que tous les crocodiles du Marigot meurent d'un coup. Ont-ils été empoisonnés ? Ont-ils été victimes d'une nourriture inadaptée ? Ça, on va l'apprendre, j'imagine, en lisant le livre. Alors, il y a une solution qui est négociée par les organisateurs afin de remédier à la catastrophe. C'est d'ailleurs ce qu'on va entendre dans l'extrait que je vais vous faire entendre. Le cirque Höffner de Francfort sur le Main, oui, qui souhaite renouveler l'intérêt du public allemand, veut bien prêter les siens. Mais, attention, en échange d'autant de canaques. Alors qu'à cela ne tienne, les cannibales, puisqu'on parle bien de ça, seront expédiés. C'est inspiré par des faits absolument authentiques. Le récit déroule l'intrigue sur fond du Paris des années 30, ses mentalités, l'univers étrange de cette exposition coloniale, tout en mettant en perspective les révoltes qui devaient avoir lieu un demi-siècle plus tard en Nouvelle-Calédonie. Gaël Kalimindi est un conteur hors du commun. Il nous entraîne donc dans cette fuite haletante à travers le Paris de l'exposition coloniale. Extrait.
Ah, c'est enfin vous, Grimaud. Cela fait bien 2 heures que je vous ai fait demander. Que se passe-t-il avec les crocodiles? J'ai fait le tour du parc ce matin avant de venir au bureau. Je n'en ai pas vu un seul dans le marigot. Grimaud commence à transpirer. Il baisse les yeux. On a eu un gros problème dans la nuit, monsieur le haut-commissaire. Personne ne comprend ce qui a bien pu se passer. Cessez donc de parler par énigme. Où sont nos crocodiles? Ils sont tous morts d'un coup. On pense que leur nourriture n'était pas adaptée. À moins qu'on ait voulu les empoisonner. L'administrateur reste un instant sans voix, puis il se met à hurler. Grimaud déglutit douloureusement. « Morts ? Tous morts ? C'est une plaisanterie ! Qu'est-ce qu'on leur a donné à manger ? De la choucroute ? Du cassoulet ? Vous vous rendez compte de la situation, Grimaud ? Il nous a fallu 3 mois pour les faire venir des Caraïbes. 3 mois ! Qu'est-ce que je vais raconter au président et au maréchal, demain, devant le marigot désert ? Qu'on cultive des nénuphars ? Ils vont les chercher, leurs crocodiles, et il faudra bien trouver une solution. » J'espère que vous avez commencé à y réfléchir. L'adjoint a sorti un mouchoir de sa poche. Il se tamponne le front. Tout devrait rentrer dans l'ordre au cours des prochaines heures, monsieur le haut-commissaire. J'aurai 100 de bêtes en remplacement pour la cérémonie d'ouverture. Des crocodiles, des caïmans, des alligators. Ils arrivent à la gare de l'Est par le train de nuit. Gare de l'Est ? Ils viennent d'où ? Grimaud esquisse un sourire. D'Allemagne. Des sauriens teutons ? Oh, on aura tout vu. Et vous les avez attrapés comment, vos crocodiles, Grimaud, si ce n'est pas indiscret ? L'adjoint se balance d'un pied sur l'autre. Au téléphone, tout simplement.
Oui, très belle lecture. Hein. On a juste envie d'entendre la suite de cette histoire de crocodiles qui seront échangés avec des cannibales. Tombouctou de Paul Auster. Et là, c'est pour un petit peu boucler la boucle. On revient sur le thème des chiens. Pourquoi Tombouctou de Paul Auster ? C'est pas une nouveauté, bien sûr. C'est quand même un livre qui a au moins une douzaine d'années, qu'on retrouve en version accessible au SQLA. Je ne l'ai pas trouvé en version commerciale sur les plateformes, mais donc il est gratuit via le SQLA. Tombouctou de Paul Auster, nous sommes avec Willy qui erre dans les rues de Baltimore à la recherche d'une de ses anciennes institutrices à laquelle, avant de mourir, il aimerait confier son chien, le fidèle Mr. Bones. Et il voudrait aussi confier à cette femme-là l'œuvre de sa vie, 74 cahiers, et notamment les 800 premiers vers d'une épopée inachevée. Ça s'appelle « Jour vagabond ». Mais voilà, Willy meurt sans avoir pu assurer l'avenir de ses écrits. Et Mr. Bones, le chien, se retrouve seul, livré à lui-même, privé de ce maître qui fut pour lui le pivot et la raison d'être de l'univers. Pour Mr. Bones, c'est une évidence, Willy est désormais à Tombouctou, qui est un peu l'au-delà des bienheureux. C'est un livre absolument remarquable, c'est une rencontre hors du commun entre deux vagabonds, boîte de Kleenex nécessaire. Je vous le dis. Un petit extrait. Mr. Bones savait que Willy n'en avait plus pour longtemps ici-bas. Ça faisait bien 6 mois que cette toux s'était installée et il ne restait plus désormais à Willy l'ombre d'une chance de s'en débarrasser. Lentement, inexorablement, sans la moindre amorce d'un changement favorable, le mâle s'était mis à vivre sa vie depuis le premier bourdonnement glaireux au fond des poumons le 3 février jusqu'aux volées de crachats asthmatiques et d'expectorations convulsives du plein été. Comme si tout cela n'était pas assez moche, une tonalité nouvelle s'était glissée depuis 2 semaines dans le concert bronchique. Quelque chose de contracté, de dur, de percutant, et la fréquence des crises était telle qu'elle paraissait à présent quasi continue. Chaque fois que l'une d'elles commençait, Mr. Bones s'attendait plus ou moins à ce que les fusées sous pression qui éclataient contre la cage thoracique de Willy fissent exploser son corps. Il se disait qu'à la prochaine étape, il y aurait du sang. Et quand advint l'instant fatal, ce samedi après-midi, ce fut comme si tous les anges du ciel s'étaient soudain mis à chanter à pleine gorge. Voilà, extrait de Tombouctou de Paul Auster que je vous recommande, disponible en version accessible au SQLA. Et enfin, Comment parler chien de Stanley Coren, comme vous préférez, C-O-R-E-N, également disponible en version accessible au SQLA. C'est comment parler chien, parce que, vous savez, comme je le dis toujours, on a l'impression qu'à nos chiens, il ne manque que la parole, mais c'est pas vrai. Les chiens nous parlent continuellement. Le problème, c'est qu'on ne parvient pas à décoder tous ces signes, ces rituels, ces postures de nos compagnons, qui nous permettraient peut-être de mieux les cerner, d'éviter le pire. Alors, voici un extrait, par exemple, page 137 de ce livre que j'ai entre les mains, et qui concerne le léchage. Vous savez, les chiens qui vous lèchent. Ce n'est pas pour embrasser un de ses congénères ou un être humain que le chien les lèche. Selon les cas, ces coups de langue sont des signes de soumission, des tentatives d'apaisement, des marques de respect ou plus simplement une demande de nourriture. Alors voyez-vous, si vous vous demandez pourquoi, c'est peut-être que votre chien a toujours besoin de se rassurer et de vous dire « tu m'aimes, moi je t'aime, tu vois je te lèche, moi je t'aime ». Ou alors simplement « j'ai faim ». Le bâillement, vous savez que quand un chien bâille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut vouloir dire qu'il est inquiet, ça peut vouloir dire qu'il est anxieux. Mais ça peut simplement dire que, comme pour le cerveau humain, il a besoin de temps en temps d'un apport supplémentaire d'oxygène. C'est tout ça que vous apprend ce livre « Comment parler chien » en version accessible au SQLA. C'est de Stanley Coren. Voilà, ainsi s'achève l'émission « Des livres pleins les oreilles » présentée à Canalem et réalisée par Clotilde Seille. Merci à Jean-François Roy, à la technique aujourd'hui. Merci à vous toutes et vous tous et à mes invités, Lise Vadnet pour « Attention, chien dangereux » et Claudia Larochelle. Je vous souhaite une belle semaine et de belles lectures. À la semaine prochaine.